Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans notre émission Courant d'art, une émission réalisée par le collectif Média.
Dans cette émission, nous allons parler cinéma, jeux vidéo, bref, on va parler d'art.
Pour nous accompagner dans cette émission, nous sommes très bien entourés. Autour de la table, il y a Lucas, Giuliano, bonjour. Amélia,
bonjour.
Maxime,
bonjour.
Dorian,
salut.
Selena,
bonjour.
Et pour co-présenter avec moi, il y a Robin.
Alors j'espère que vous êtes prêts à passer une heure musicale avec nous. C'est parti.
Et pour commencer cette émission, nous démarrons avec toi Robin. Tu vas nous parler de cinéma.
Bienvenue chers auditeurs dans notre chronique cinéma du jour. Aujourd'hui on va aborder une question qui agite passionnés et amateurs. Qu'est-ce qui fait vraiment un bon film ? On le sait, le cinéma est omniprésent dans notre quotidien. Il nous émeut, nous transporte, nous bouscule parfois. Mais comme tout sujet universel, il est aussi source de débats enflammés et croyez-moi, dans mon groupe d'amis, on ne fait pas exception. Ce week-end, par exemple, on avait prévu une sortie au ciné, mais impossible de se mettre d'accord. Mon ami, mon meilleur ami, a jeté son dévolu sur Fast and Furious pour sa dose d'adrénaline et ses cascades époustouflantes. Sa copine, elle, penchait pour un petit truc en plus, comédie française, classique pour s'évader avec un peu de légèreté. Et moi, j'avais proposé le grand classique, Le Comte de Monte Cristo. Autant dire qu'on a passé plus de temps à discuter du choix du film qu'à profiter d'une séance. Mais cette discussion soulève une question de fond. Peut-on vraiment hiérarchiser les films, dire qu'un jour ou un style vaut mieux qu'un autre? On a demandé aux Liégeois, micro-trottoir.
Ah, mais le film était incroyable. Franchement, je vous conseille très fort.
C'était calme, c'était lent, il y a...
Un bon
Bonjour, selon vous, à quoi sert...
Petit problème avec la régie, pas extrêmement grave, mais dans ce micro-trottoir, on entendait du coup certains avis qui disaient, par exemple, que les plus importants c'était le scénario ou alors c'était les acteurs. Mais pour nous éclairer, on a tourné notre regard vers les professionnels. Tous les 10 ans, la célèbre revue Sight and Sound publie un classement des meilleurs films de tous les temps, résultat d'un sondage auprès de centaines de réalisateurs critiques et cinéphiles. Et vous seriez étonné de voir leur top 3. Oubliez les blockbusters ou les grandes romances hollywoodiennes. Ici, on est dans un autre registre. Prenons la première place, par exemple, occupée pendant des décennies par Citizen Kane d'Orson Welles. Premier, pourquoi ce film de 1941 fascine-t-il autant? Eh bien, il a révolutionné le cinéma par sa narration non linéaire et sa mise en scène audacieuse. Avec ses plans-séquences innovants, ses angles de cinéma vertigineux et son exploration complexe de la psychologie humaine, Citizen Kane a repoussé les limites du médium. Ce n'est pas un film facile, mais il est perçu comme un chef-d'œuvre pour l'audace de son propos et la profondeur de sa mise en scène. Il n'est pas le seul à trôner en haut du classement. Un autre film souvent cité est Vertigo d'Alfred Hitchcock, le célèbre réalisateur. Pourquoi lui ? Vertigo est une œuvre obsédante, une plongée dans la folie et l'obsession portée par des techniques cinématographiques novatrices, comme le fameux zoom contrarié pour traduire la peur du vide. Ce film explore des thèmes universels et sombres comme le désir de l'illusion, tous en nous, emportant dans un suspense implacable. Pas étonnant qu'il soit vu comme un chef-d'œuvre par les cinéphiles. Un autre exemple, regardez du côté de Tokyo Story de Yasujiro Ozu, un film japonais des années 1950 qui figure souvent dans le top, contrairement aux récits dramatiques occidentaux. Tokyo Story adopte un rythme très lent pour dépeindre les relations familiales et les petites désillusions de la vie. Ce film touche au cœur par sa simplicité et sa vérité. Et c'est cette authenticité qui lui vaut une place dans l'histoire du cinéma. Alors, pourquoi ces films-là et pas d'autres ? Ce ne sont pas des divertissements classiques et pourtant ils touchent à quelque chose d'essentiel. Ils explorent la condition humaine sous un angle nouveau. Ils inventent un langage visuel qui parle autant que les mots et ils nous laissent souvent avec plus de questions que de réponses. Pour les critiques, un grand film est celui qui ne se contente pas de distraire, mais qui enrichit, qui provoque et persiste dans nos esprits. Alors, voilà, la question que je vous pose aujourd'hui est simple, et en même temps, elle ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qui fait un bon film selon vous ? Est-ce l'émotion brute, l'innovation technique, ou encore la profondeur du propos ? Peut-être tout ça à la fois. Ce qui est certain, c'est que chacun a sa propre réponse et le cinéma, finalement, ne cesse d'évoluer avec ses nouvelles visions. Alors, chers auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, un bon film, c'est Fast and Furious avec son énergie et son action non-stop, ou peut-être un grand classique comme Le Comte de Monte Cristo, qui traverse le temps et nous parle de vengeance et de rédemption? On attend vos avis, à vos coups de cœur, et surtout, restez curieux, car au cinéma, comme dans la vie, il y a toujours une histoire à découvrir.
Cinéma, cinéma, ça, ça, de film en film, cinéma, cinéma.
Merci beaucoup Robin pour cette chronique. Robin, pardon. Désolé, il y a un petit bug. Et on enchaîne tout de suite, on continue sur le grand écran. Mais cette fois-ci, on va passer derrière la caméra avec toi, Dorian.
Maintenant, parlons un peu cinéma et particulièrement des métiers de l'ombre. Avant de vous expliquer concrètement qui ils sont, nous allons écouter ce que les Liégeois pensent de ce sujet. Bonjour. Selon vous, à quoi servent les métiers de l'ombre du cinéma?
C'est indispensable pour qu'il y ait du cinéma, pour qu'il y ait des films.
Alors pour moi, au cinéma, les métiers de l'ombre, c'est plus les régisseurs, ceux qui vont tenir la perche pour le son, les éclairages et tous ceux qui doivent préparer le décor, les fonds bleus, le montage, tout ce qui est après les acteurs.
Ils sont indispensables. Sans eux, il n'y aurait pas de film, j'imagine. J'imagine aussi sans certitude que ce sont tous les métiers, toutes les personnes qu'on ne voit pas sur le grand écran. Donc tous les techniciens par exemple, sans doute pas que.
Ce sont tous les techniciens, tous ceux qui œuvrent à la réalisation d'un film.
Alors pour moi, les métiers de l'ombre du cinéma, c'est probablement presque les plus importants. Parce que sans eux, en fait, les montages, ils seraient pourris. Il n'y aurait clairement pas assez de prises de vue. Les voix, on les entendrait probablement pas assez non plus. Et puis, il y a tout ce qui est make-up, coiffure, préparation décor qui sont hyper importants. Parce que sans ça, en fait, c'est juste, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Et c'est jamais assez connu, malheureusement, pour eux.
En effet, selon certains, ces métiers ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Quand nous allons voir un film au ciné, nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg, les acteurs, les figurants, peut-être les lieux de tournage. Mais sincèrement, qui lit le générique de fin une fois la séance terminée? Vous savez, ce texte qui défile sur un écran noir et qui donne le signal de départ, qui donne le signal de départ de la course vers la sortie. Eh ben, l'ironie du sort veut que ce soit sur cet écran noir que le cinéma honore le travail de ceux qui le rendent possible. Alors, je vais vous poser une petite question. Le directeur de la photographie, est-ce que vous savez qui c'est?
Pas du tout. Non, vraiment
non,
pas.
Non,
non, vraiment pas.
Non.
Eh ben, c'est celui sans qui les couleurs du film seraient fades, le point de vue unique, les caméras immobiles et l'éclairage seraient éteints. En parlant d'éclairage, avez-vous déjà entendu parler des éclairagistes? Car sans eux, il n'y aurait pas de lumière dans les films. Tout serait sombre et morne. Un layout artiste? Un opérateur prévision 7? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, vous, ça? Un opérateur prévision 7?
Pas du tout.
Non, j'en ai jamais entendu parler.
Cela montre bien qu'ils ne sont pas assez connus. Et je vous propose de vous renseigner. Ces métiers permettent aux films d'exister. Une petite définition pourrait peut-être vous aider. Une personne travaillant dans l'ombre au cinéma fait en sorte que le film prenne vie sans être sous les feux des projecteurs. Voici encore quelques exemples que vous pourriez connaître. Monteur, costumier, cadreur ou encore technicien GFX. Ce métier apparu plus récemment est là pour créer des modèles 3D et les effets spéciaux dans les films. Tous ces métiers sont peu représentés dans les interviews ou les critiques, mais n'en restent pas moins importants. Alors la prochaine fois que vous irez au cinéma, je vous suggère de regarder l'intégralité du générique et tous les différents métiers qu'il a fallu pour créer ce film. Personnellement, le cinéma, dans tous ses aspects, est un monde qui me fascine et j'espère avoir donné envie à des jeunes comme moi de s'intéresser à ce sujet plus en profondeur et peut-être leur faire leur futur métier. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous laisse la parole.
Merci beaucoup Dorian. Il est déjà temps de nous faire une pause musicale. On s'écoute Jump in the Line de Harry Belafonte.
Shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her.
And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Whoop! Shake, 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 Sinora, shake your body line. Whoop! Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Whoop! Work, work, Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Yeah. Work, 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 Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Whoa! Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Dance, 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 Sinora. Dance it all the time. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Oh! Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
De retour sur 48FM avec Alessio et sa chronique sur Tim Burton.
Le film d'animation Les Noces Funèbres, Édouard aux mains d'argent, le film Disney Alice au pays des merveilles et Dumbo, ou encore le film d'animation le plus apprécié qui mélange les superbes fêtes Halloween et Noël, L'étrange Noël de Monsieur Jack, sont les magnifiques œuvres de Tim Burton, un drôle de personnage qui combine l'horreur gothique et le fantastique dans ses films hors du commun. C'est un réalisateur, producteur, scénariste de films américains hollywoodiens. Du haut de ses 66 ans, il a déjà réalisé, produit et scénarisé énormément de films et courts-métrages à succès. Nombreux grands acteurs ont déjà joué dans plusieurs de ses films, comme Monica Bellucci dans Beetlejuice, Beetlejuice, ou Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent, incarnant le personnage principal, et dans Charlie et la chocolaterie, incarnant le chocolatier Wonka, mais encore Jenna Ortega qui joue dans la série à succès Mercredi. Le film Beetlejuice, Beetlejuice, incarnant les personnages principaux de ceux-ci. Quelques-uns de ses films sont des comédies musicales, exemple L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces Funèbres, ou encore Beetlejuice, Beetlejuice. Alors, pour les fanatiques, je vous les recommande fortement. Revenons à sa biographie. Il a travaillé il y a quelques années pour la grande entreprise que vous connaissez tous, Disney. Mais, ses films étant trop glauques et terrifiants pour l'univers incroyable qu'est Disney, ils l'ont renvoyé. Mais quelques années plus tard, ils l'ont rappelé pour réaliser les films Dumbo et Alice au pays des merveilles. Maintenant que cette brève présentation est finie, je vais vous poser une petite question. Quel est votre film préféré de Tim Burton ? Nous avons été posé la question à quelques passants et voyons voir ce qu'ils répondent. Quel est votre film de Tim Burton préféré ?
Le mystérieux Noël de Monsieur Jack.
Je pense que ça doit être Big Fish, en vrai, parce que je pense que c'est là où il explore le plus une relation profonde avec son père, et que c'est ça que je trouve très intéressant. Donc ouais, moi je dirais Big Fish, je pense.
Je sais pas qui c'est Tim Burton. Je dirais quand même L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je trouve que ça reste un must. Surtout, c'est bientôt la période de Noël, alors...
Du coup, Tim Burton, j'ai pas vu tellement de films, même si j'adore son univers. Le peu de films que j'ai vu, vraiment, j'adore. Donc, j'adorerais en regarder plus. Et mon film préféré de Tim Burton, c'est L'affreux Noël de Monsieur Jack. Et c'est vraiment mon film préféré par excellence.
Mon film préféré de Tim Burton, ça me rappelle des souvenirs. C'est quand j'étais petit, c'était Big Fish. C'était vraiment un film très intéressant qui m'avait à cette époque réellement émerveillé parce que c'était un univers si spécial et un peu trash des fois, je l'avoue, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et voilà, c'est l'univers de Tim Burton qui est quand même assez complexe et qui est en film, qui sort de l'animation et ça j'adore.
Personnellement, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je trouve que c'est un film incroyable car ses décors sont vraiment chouettes et assez originaux. J'apprécie l'idée de mélanger Noël et Halloween, sachant qu'elles sont complètement différentes l'une de l'autre, car d'un côté, Halloween représente tout ce qui est la peur, les monstres et les morts, tandis que Noël est une fête chaleureuse qui combine amour et amitié. Le fait aussi est que dans le film, le personnage principal, Jack, soit perturbé par Noël, car il n'a jamais fêté cette fête parce qu'il ne connaît que la fête d'Halloween.
Si je devais donner mon humble avis, je dirais que c'est Big Fish, mon film préféré. Enfin, voilà quoi. Merci à les yeux. Il est temps de faire notre seconde pause musicale. On écoute Coldplay, Viva la Vida.
Missionaries in a foreign field. For some reason I can't. that was when I ruled the world.
Ah là là, Coldplay, toujours des musiques entraînantes. Vous êtes de retour sur 48FM. Vous écoutez toujours Courant d'Art, votre émission artistique. Et maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Eva Curia, qui est chargée de production chez Tarantula. Une interview réalisée par Maxime et Dorian.
Alors bonjour Eva Curia, vous êtes bien productrice du coup ?
Oui, bonjour, tout à fait.
Ça va, merci. Donc on vous interviewe ici pour savoir un peu quel est votre métier, qui est un métier de l'ombre du cinéma.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Eva, je travaille dans le cinéma depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé par travailler bénévolement dans une société de production, comme ce qu'on appellerait petite main, c'est-à-dire que je faisais un petit peu tout. Ensuite, j'ai été assistante de production pendant plusieurs années, puis productrice exécutive, et je suis maintenant productrice chez Tarantula, qui est une société de production de longs métrages de cinéma ici à Liège.
Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre métier ?
Alors mon métier, il consiste à mettre en place, depuis la genèse d'un projet, une œuvre, jusqu'à sa sortie et son exploitation dans les salles de cinéma et sur tous les autres supports de diffusion. Donc d'abord des échanges avec des auteurs autour d'un scénario, ensuite la mise en place du financement pour rendre cette œuvre réalisable, constitution des équipes, la recherche des comédiens, des décors, jusqu'à trouver des distributeurs qui vont permettre d'exploiter le film, de le diffuser le plus largement possible.
Et alors, quel a été le plus gros projet que vous avez dû gérer ?
C'était sans doute, comme productrice exécutive, un film italien qui s'appelle Freaks Out, qui est sorti en 2019, si mes souvenirs sont bons, qui était un film d'époque avec des super-héros dans un cirque nazi à Rome pendant la guerre 40-45, avec énormément de décors, beaucoup de comédiens. Et c'était une coproduction, la Belgique coproduisait une partie du film.
Ok, ok. Est-ce que vous pourriez nous parler des études que vous avez dû faire pour devenir productrice ?
Alors, j'ai pas du tout fait mes études dans l'objectif d'être productrice. Donc moi, j'ai fait 3 ans de droit et puis l'Académie des Beaux-Arts en audiovisuel. Donc c'était pas du tout le plan à la base. Et finalement, mes études m'ont bien servi dans ma fonction actuelle, mais j'ai pas fait des études précisément dans cette optique-là. J'ai toujours été attirée par le cinéma. Donc en sortant de mes études, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et j'ai trouvé cette boîte dans laquelle je vous ai dit, j'ai travaillé bénévolement et j'ai adoré. Et voilà, je suis toujours là.
Et est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passerait si pendant un jour vous étiez malade ou quoi, alors que vous êtes en plein rush, c'est vraiment le jour où il faut pas être absente?
28 484 emails non lus, probablement, et 280 appels en absence. Je pense que s'il y a des moments où c'est vraiment grosse galère et qu'il y a plein de problèmes, même malade, il faut que je répondrai du fond de mon lit, quoi.
Ah oui, carrément, ça va loin. Et bah du coup, pour terminer, quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui voudrait se lancer du coup dans la production et qui commence ses études ?
Ben déjà d'énormément voir des films, aller en festival, vraiment pas hésiter à aller voir plein de films, des courts-métrages, rencontrer des gens. Et beaucoup de proactivité. En fait, il faut être là tout le temps, sur la balle, et avec de l'envie et même des apprentissages par vous-même. Ben en fait, c'est un peu une bonne façon de démarrer. Mais surtout, se cultiver soi-même, chez vous. Et, surtout aujourd'hui, avec Internet et tous les accès qu'on a, ben, on peut apprendre plein de choses par soi-même. Donc ne pas attendre en fait, que quelqu'un vous dise quoi faire, où aller. C'est pareil, si vous faites une expérience sur un plateau de cinéma, à quelque fonction que ça soit, il faut tout le temps bouger. Faut pas rester les bras ballants à attendre qu'on vous dise ce que vous devez faire. Il faut vous pouvoir anticiper un peu les besoins autour de vous.
Bah, on espère que ça aura aidé des personnes à savoir peut-être ce qu'ils veulent faire. Et avant que vous partiez, on aimerait bien vous poser une dernière question en lien avec la prochaine chronique. Quelle sortie est-ce que vous attendez le plus pour l'année 2025?
Sans doute une sortie belge, le nouveau film de Fabrice Duhels, Maldoror, qui va sortir en janvier, que je vous conseille et invite tous d'ailleurs à aller voir.
Bah, ça va, merci beaucoup. On vous remercie encore une fois d'être venu et d'avoir accepté notre interview. Donc nous vous souhaitons une bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi.
Bonne journée. Merci Maxime et Dorian pour cette belle interview. Et la fin de notre discussion nous permet d'enchaîner sur notre chronique sortie cinéma avec toi, Giuliano.
Merci Robin. Alors, un paquet de films va sortir l'année prochaine et elle promet d'être un golden age du cinéma et il y en aura pour tous les goûts. Si vous aimez Michael Jackson, eh bien le film Michael est fait pour vous, étant la biopic de celui-ci. Si Megan vous a déjà donné des frissons l'année passée, préparez-vous, elle revient pour vous en grand écran. Mais de tous les films de 2025, les plus attendus sont de loin Mickey 17, Avatar Fire and Ash et Frankenstein. Mickey 17 est un homme dont la mort fait partie de son quotidien. Il a été envoyé pour coloniser une planète gelée. Chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont remis dans un nouveau corps. Il va réellement comprendre le sens de sa mission à partir de sa sixième mort. Avatar Fire and Ash est la suite des deux préquels de la série et portera sur le thème du feu. Malheureusement, nous n'avons pas encore assez d'informations sur celui-ci. Sa sortie initiale qui était prévue en 2024 a été retardée en 2025 et elle pourrait être encore retardée. Et pour finir, Frankenstein. Frankenstein est un film américano-mexicano réalisé par Guillermo del Toro. Il s'agit d'une adaptation du roman Frankenstein ou le Prométhée, publié en 1818 par Mary Shelley. Mais vous, quels sont les films que vous attendez le plus en 2025?
À quel jeu jouez-vous le plus souvent?
Et les jeux que je joue le plus souvent...
Quels sont les films que vous attendez le plus en 2025?
Là, du coup, j'en ai plus trop. Mais je crois qu'il y a celui de Shrek qui va sortir.
Le film de Brad Pitt sur la Formule 1.
Les horreurs. Les films d'horreur. Et les comiques.
Alors, c'est une bonne question. J'avoue que je ne sais pas. Mais oui, je ne sais pas exactement.
Des films d'horreur et des films. Des beaux films. Qui seront bien en 2027. J'ai pas de type, j'ai rien. Juste des beaux films comme ça, mais j'ai pas de type.
Écoutez, voilà, moi j'ai pas vraiment d'attente, je ne sais pas, je suis pas l'actualité, donc...
Merci Giuliano, et il est maintenant temps d'une nouvelle pause musicale. On s'écoute Dynamite de BTS.
Petit problème technique encore une fois, ce n'est pas extrêmement grave. On est de retour sur 48FM dans votre émission artistique. On enchaîne notre partie plus musicale avec une première chronique sur la K-pop avec toi, Amélia.
Bonjour. Vous aviez déjà sûrement entendu parler de K-pop, mais saviez-vous exactement ce que c'est? C'est la question que j'ai posée autour de moi. On écoute les réactions.
Que pensez-vous de la K-pop?
Je trouve que c'est quand même un concept un peu assez original. C'est un peu, genre, en soi, c'est comme la pop française, genre, sauf que c'est coréen, du coup. Et je trouve c'est bien parce que ça donne assez du rythme, genre, je trouve ça spécial que ce soit des fois dans, en fait, que des groupes de K-pop comme très connus, BTS, Blackpink et tout ça, enfin, je pense que c'est les deux plus connus, je suppose, et que des fois, ils font des collaborations avec des artistes américains et tout.
Alors, la K-pop, moi, j'aime bien. J'en ai beaucoup écouté il y a une dizaine d'années. Et j'écoutais plein de groupes différents. Et franchement, je trouve que ça met un mood super cool parce qu'en fait, ça bouge beaucoup dans le son. Et en plus, quand on regarde les clips aussi, ils dansent et tout. Du coup, ça donne envie de bouger. C'est hyper dynamique. Et en fait, pour le moment, j'écoute juste beaucoup moins de musique. Et du coup, j'écoute plus trop de K-pop. Mais franchement... J'ai envie, d'en entendre parler, ça me donne envie d'aller réécouter.
En fait, je connais pas du tout très bien cet art, quoi.
Donc, je ne saurais pas vraiment dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est que c'est une musique. Voilà, ça ne me dérange pas. Voilà.
Alors, la K-pop, je ne connais pas très bien, mais il me semble que ça marche bien pour le moment. Et j'ai des amis qui sont partis en Erasmus en Thaïlande, en Corée, ça n'a rien à voir, en Corée. Et donc, du coup, eux étaient déjà fans de K-pop, ils m'en parlaient un petit peu. Donc, je me réjouis qu'ils rentrent pour qu'ils me racontent comment ils l'ont vécu à la source, quoi. Donc, voilà.
Le K de K-pop signifie coréenne. Korea en anglais. La K-pop, c'est le nom de la musique produite en Corée. Elle est apparue au début des années 1990. Le terme K-pop mêle en fait plusieurs styles. Pop, électro, R&B, hip-hop, danse et rock. C'est plus principalement un groupe de garçons ou un groupe de filles, rarement des groupes mixtes. Il comporte deux chanteurs, deux rappeurs, des danseurs, une tête d'affiche. Le ou la plus jolie, un maknae, le ou la plus jeune, un ou une leader. Il y a aussi un bias. C'est la personne que l'on préfère dans un groupe. Personnellement, mon bias dans BTS est Jungkook. Par groupe, il y a une communauté qui se nomme le fandom. Pour BTS, le maknae est Jungkook et le leader est Terem. Exemple d'un groupe et de leur rôle. Suga, de son vrai nom Min Yeonggi, est le rappeur principal, danseur et parolier. Jin, de son vrai nom Kim Seong-jin, est chanteur visuel, et Yang, le plus vieux. Ji-hope, de son vrai nom Jung Yo-seok, est danseur principal, rappeur et parolier. RM, de son vrai nom Kim Nam-joon, est le leader, rappeur et parolier. Jimin, de son vrai nom Park Jimin, est danseur principal et chanteur. Vi, de son vrai nom Kim Taeyang, est chanteur, danseur et visuel. Jungkook, de son vrai nom Jin Jung-gung, est chanteur principal, danseur, rappeur, centre et maknae, du coup le plus jeune. Le plus gros succès de la K-pop sont Dynamite et Butter de BTS et d'autres. En Europe, la K-pop est apparue fin des années 2000. Un des plus gros tubes aussi de la K-pop, c'est Gangbang Style de Psy, qui avait retourné le monde entier en 2012. C'est bien de la K-pop, avec un style un peu différent avec ce que l'on connaît d'aujourd'hui, mais ça reste de la K-pop. En conclusion, quand on parle de K-pop, on parle d'un genre de musique florissant provenant de la Corée, avec des musiques souvent entraînantes et dansantes. Et si vous pensez que le mouvement ralentit, alors vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
Merci Amélia. Petite pause spéciale dans notre émission. Célina, tu nous as préparé un petit quelque chose.
Vas-y,
c'est ça.
Le micro est à toi.
Merci.
Fais couler mon sang, aujourd'hui je te remercie. Il vaut mieux être franc ou t'es plus mon ami. Moi je parle pas, je prie pour toi, pour que Dieu te choisisse. Pour à l'instant, vaut mieux que reste comme ça, en attente de le mois que finisse. C'est pas la première fois qu'on fait ça, j'en ai marre d'être manipulé. Pourquoi c'est toujours moi, vous voulez pas vous arrêter? Écoutez-moi. 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 Écoutez-moi, j'en ai marre de vivre comme ça. Je n'ai que quelques amis et ils m'ont donné un cœur. Avec eux, c'est pour la vie et on se baignera dans le bonheur.
Wouh! Ah, oui. Merci Selena. Il est temps de faire notre nouvelle pause musicale.
Je peux tirer. Alors voilà. Petit problème, c'est pas grave.
Ouais. Du coup, merci beaucoup Selena. C'était vraiment top. T'as écrit ça toi-même, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Super.
J'ai écrit ça parce que ça.
c'est un peu important pour moi. Bah, je me suis dit, moi, il y en a plein de ces jours qui parlent de choses d'alcool, de drogue, etc. Mais
C'est vrai que c'est un sujet assez intéressant. D'ailleurs, ouais. La deuxième partie de notre émission radio, fait justement sur certaines maladies mentales et autres troubles chez les jeunes, qu'on vous conseille d'écouter, elle aussi, qui est donc du coup un peu la suite de notre émission, ouais, mais qui est quand même assez à part en termes de sujet. Vous avez
tout
vu, vous avez envie d'écouter, vous?
Moi, oui, vraiment, j'ai vu leur projet, j'ai vu tout le travail qu'ils ont fourni, et je trouve vraiment que c'est un truc qu'il faut écouter absolument. Si je dis pas de bêtises, c'est à 13h qu'ils passent, donc vous pouvez rester sur 48FM, à 13h ils vont venir et ils vont vous présenter comme nous leur travail qu'ils ont fait cette semaine.
C'est presque la fin de notre émission, mais Maxime et Lucas, vous avez prévu deux chroniques encore, et on commence avec toi Maxime, tu nous parles de musique techno.
Ah, la musique techno. Cette musique ultra commerciale depuis les années 50, elle a fait le tour du globe peu après son apparition. Et elle a fait beaucoup parler d'elle. Aujourd'hui, une de ses dérivées les plus connues est née à Détroit dans les années 80. Connaissez-vous Metroplex ? C'est le premier label indépendant de musique techno. Mais entre 1985 et maintenant, la techno a beaucoup changé. Est-ce que les Liégeois savent encore vraiment ce que c'est ? Je suis sorti pour leur demander, et voici leur réaction.
Ma question est la suivante. Est-ce que, pour vous, il y a des critères spécifiques pour avoir une musique techno ?
Je sais pas répondre.
Je sais pas non plus. J'y vais à
l'influence. C'est une bonne ambiance. Une bonne ambiance, oui, c'est convivial, j'aime bien.
De base, c'est pas mon style de musique. Des fois, j'écoute plus de la house. C'est un peu plus mainstream, c'est un truc qu'on a plus facilement à écouter. Et ça m'arrive d'en écouter en soirée, mais on va dire peut-être 4-5 fois sur l'année, parce que l'environnement fait que ça me donne envie. Mais de moi-même, j'écoute pas spécialement de la techno. Je pense que c'est de la musique qui est bien, mais j'ai pas spécialement d'avis plus poussé là-dessus, quoi.
Je sais pas, moi. C'est de la musique avec beaucoup de basses et beaucoup de bruit. Pas de paroles, juste...
Vous êtes pas fan,
non, pas spécialement.
C'est drôle, quoi.
Ouais, c'est de la musique de soirée, quoi.
Mais pas c'est quoi la musique techno, voilà. J'aime bien quand même la musique, quel qu'en soit, en fait, tu vois, le genre de musique, que ce soit le dancehall, le latino, j'aime tout, quoi.
Je définis pas spécialement, pourquoi, enfin, comment. C'est perturbant, ma question, quand même, hein, comme ça.
C'est quoi la musique techno, pour vous?
On est moins dans le démonstratif, on est plus dans sa chambre en train de créer de la musique. Après évidemment c'est une belle musique, je dis pas le contraire, je suis pas vraiment attiré par, je viens de vous le dire, je suis plus dans le métal, donc voilà, l'acoustique ça me plaît beaucoup plus. Après voilà, chaque musique a sa valeur.
Comme vous avez pu l'entendre, la techno n'a pas survécu chez la plupart de nos interviewés, mais reste fort écoutée en boîte de nuit. Avant de vous parler de ce qu'elle est, je vais vous parler de ce qu'elle était. Tout commence avec Kraftwerk, le premier groupe ayant été reconnu pour jouer de la techno. Les instruments utilisés dans la techno n'auraient jamais vu le jour grâce à l'exceptionnel Robert Moog, l'ingénieur américain considéré comme l'inventeur du synthétiseur. À l'origine de la création de la techno à Détroit, on retrouve le groupe Believer Tree, groupe plutôt conséquent vu qu'on retrouve encore des clips de jusqu'après 2010. Mais au fait, qu'est-ce que c'est la techno ? Selon plusieurs sources internet, c'est une musique électronique composée en studio, souvent chez soi, qui sera diffusée par des DJ en boîte de nuit. C'est avant tout une musique qui donne envie de danser quand elle est bien réalisée. Je ne sais pas si vous le savez, mais les musiques fonctionnent sur un certain nombre de temps. En Belgique, ce sont souvent les musiques en 8 temps, mais culturellement, ça peut varier. Dans la techno, le rythme se répète en 16 ou en 32 temps. Personnellement, j'aime beaucoup la techno. Je trouve que c'est très diversifié et les morceaux changent beaucoup au fil du temps. À l'heure actuelle, ce qui a transformé la musique techno de 1985 à aujourd'hui, c'est l'intensité des basses qui est plus forte et la rapidité du son qui a augmenté. Les artistes performant le plus souvent sont aujourd'hui Rune RK, Gesenschaft ou encore Vitality. Ces trois artistes apparaissent dans toutes sortes d'événements comme des concerts, des open air ou des festivals. Leur but est simple, faire passer un excellent moment à toutes les personnes présentes. En conclusion, la techno devient une musique plus forte et plus désagréable pour certaines personnes. C'est un style particulier aux avis mitigés.
Hey, I know, Mantronic is really great, but my style is much better.
Merci Max pour ta chronique sur la techno. La techno, groupe avec des noms compliqués, comme on a pu l'entendre. Et pour terminer en beauté notre émission, Lucas, tu vas à contre-courant en nous parlant de jeux vidéo.
Eh oui, experts ou débutants, nous avons tous entendu parler des jeux vidéo. Mais les tendances ont beaucoup changé. C'est pour ça que je vous ai présenté les 5 jeux vidéo les plus tendances du moment. Mais juste avant, voici l'avis des Liégeois.
Je joue à beaucoup de jeux. Donc je suis vraiment un gamer, mais les jeux que je joue le plus souvent sont principalement Minecraft et je dirais Mario Kart.
Alors moi j'aime beaucoup jouer à des jeux open world, c'est-à-dire à des jeux où tu as la liberté d'aller dans toutes les directions. Moi je joue donc très souvent à Zelda Breath of the Wild. C'est un jeu du coup de Nintendo que je jouais sur Switch. Et ce jeu est très passionnant parce que justement on a la liberté de découvrir toute la carte de ce jeu et... J'apprécie vraiment le travail des créateurs.
Call of Duty avec FIFA. Bon, pourquoi ? Parce que c'est des jeux en ligne aussi et que ça permet d'avoir des parties. Voilà, mais ça m'arrive énormément de jouer à des jeux d'aventure, des jeux solo comme The Last of Us, Assassin's Creed, voilà.
Alors, quand j'étais ado, je jouais tout le temps à Dofus. Alors, j'étais un peu nul et mon personnage était réellement un peu nul parce qu'il m'a fallu des années pour monter un cra niveau 64. Mais j'adorais et je faisais que ça de mes journées. Et évidemment, quand t'as deux grands frères qui jouent aussi, ça te donne envie de jouer parce que tu les vois et du coup, t'as envie de t'améliorer et tout. Et du coup, c'est un peu le cercle vicieux où tu tombes dedans, mais trop, trop bien.
Doom Eternal, un jeu incroyable. J'explose des monstres non-stop. Il y a une tronçonneuse, c'est super puissant, c'est super vif. Je kiffe, c'est un jeu de fou. Voilà.
Les jeux que je joue le plus souvent, c'est Animal Crossing. Ça consiste à, genre, tu crées une île. Donc d'abord tu as une tente et tout ça, tu vis dans une tente et tu dois recueillir des villageois, tu dois faire ton île, faire le ménage et tout ça, tu dois construire des bâtiments, des ponts et tout, le tralala, et vraiment c'est un jeu que je conseille.
Alors moi je pense que c'est CSGO, c'est un jeu FPS, donc un first person shooter, où il y a deux équipes, une équipe de terroristes et une équipe d'antiterroristes. Et tu dois un peu avoir de la stratégie pour pouvoir savoir où vont être tes ennemis en fonction de ton équipe, de ce qu'ils ont déjà fait les manches avant, etc. Donc c'est un jeu que j'apprécie beaucoup parce qu'il faut toujours être à l'affût et écouter le moindre bruit et tout le temps, changer ta technique parce que les ennemis n'étaient pas là où tu pensais, etc. Donc ça stimule bien le cerveau, je trouve.
Eh bien, nous allons commencer notre chronique par Fortnite, un jeu de tir à la troisième personne façon Battle Royale, un style de jeu où 100 joueurs sont lâchés sur une île et doivent trouver des armes pour être le dernier survivant. Mais ce qui est dur, c'est d'échapper à une tempête qui se déplace aléatoirement. Je pense que ce serait aussi bien de parler du jeu le plus vendu au monde, Minecraft. Un jeu qui laisse à la place à la créativité et à l'exploration. Cela, selon nos sources, c'est le jeu le plus vendu au monde. Vous arrivez dans un monde cubique où vous devez trouver des outils. Le jeu contient aussi de nombreux boss à découvrir pour une expérience plus corsée. Le grand classique de la PS5, Astrobot, est un jeu de plateforme où l'on contrôle un petit robot dans un monde animé où il faut libérer d'autres robots. Le jeu est très intéressant car il utilise beaucoup de fonctionnalités de la manette de la PS5, comme la détection de son ou le gyroscope ou le pavé tactile. Une aventure amusante sans limite.
C'est déjà malheureusement la fin notre émission. Vous avez écouté Courant d'Art. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe du Collectif Média et de 48FM. Cet atelier a été réalisé grâce au Conseil supérieur de l'éducation, aux médias. A très bientôt sur les ondes de 48FM.
Au revoir.